Les causeries de Charlie. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nos causeries de Charlie, autour du dernier numéro. Alors, autour de la table, je commence tout de suite par ça, nous avons, avec le chien Lily sur les genoux, c'est Lorraine.
Bonjour.
Renaud.
Tout à fait.
Bonjour. Biche, il revient de congé, parce qu'il a dû prendre quelques jours après avoir gagné le semi-marathon de Paris.
Bonjour.
Bonjour Biche. Gérard Billard, égal à lui-même.
Bonjour.
Ça va Gérard ?
Ça va. Donc, et toi, Fouls, ça va ?
Un peu énervé, mais je dirais pourquoi tout à l'heure.
Oui.
Ici, alors nous avons... Alors elle fait le tour du monde avec son livre Une réputation. C'est leur dossier.
Mais la France, c'est Bonjour. Le monde.
Leur dossier. Et, alors toujours le sourire ici, hein, le rayon de soleil de la rédaction, Monsieur Riss. Bonjour, Monsieur Riss.
Pourquoi c'est rire ?
C'est Riss et c'est Bichkari, hein, monsieur.
Bien noté.
Alors... Une idée de Laure, cette semaine, nous a dit « Pourquoi vous débattez pas un peu de comment on a fait la couve ?» Alors la couve, je la décris, nous avons le... Alors, l'accroche, c'est « Aide à mourir », ça aidera peut-être des gens à comprendre comment se fabrique un dessin de presse. Alors, d'abord, on lit l'accroche « Aide à mourir », et ensuite, on voit le président Macron qui est aux prises avec des soignants un petit peu pressés, justement, de s'occuper de lui. Ces soignants, ce sont donc des gens du RN, donc je vous l'ai décrit. Mais vous l'avez, bien sûr, chez vous, puisque vous l'avez reçu ce mercredi et que nous parlons jeudi. Alors, Riss.
Oui.
Comment ça s'est passé ?
Mais tu le sais très bien, puisque tu étais là.
J'étais là, mais moi, j'étais dans mes dessins, j'étais dans mes croquis, j'ai pas vu la chose arriver. Alors, comment ça arrive ? Comment ça devient une magnifique
En fait, je crois que c'est Gérard qui regardait les dessins de Félix, et Félix, et Félix a fait ce dessin.
Géry.
Oui, voilà. C'est le test Gérard. Si Gérard rit, c'est que c'est bon.
Gérard a tendance à tout trouver assez lamentable.
Oui, oui.
Son rire est précieux.
Hein. C'est Gérard qui, en voyant un dessin de Félix, que Félix était en train de faire, a trouvé l'idée plutôt marrante.
Et qu'on l'a vu.
Voilà, il a ri. Et donc, effectivement, c'était... Ça, bon, c'est vrai que c'est... Alors, c'est vrai qu'il y a deux sujets. Il y a l'aide à mourir, mais c'est vrai que c'est pas forcément un dessin... spécifiquement sur l'aide à mourir, c'est plutôt sur l'envahissement de la scène politique par l'extrême droite, qui est de plus en plus trop présente, et Macron qui est un peu sur la défensive, parce que ça va être un peu le grand combat qui va arriver pour les présidentielles.
Mais ce type de une, en fait, c'est vrai que c'est un mécanisme qu'on emploie quand même assez souvent, d'avoir deux, en fait, d'utiliser deux éléments de l'actualité pour les mélanger en quelque sorte.
C'est toujours un qui est prétexte à rebondir sur l'autre.
Voilà,
le dessin contredit un petit peu l'accroche, et c'est ça qui provoque le rire, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on croit qu'on va avoir un dessin sur l'aide à mourir, et puis quand on voit le dessin, on se dit... C'est Macron qui est en prise avec des gens qui veulent sa fin.
Voilà, mais c'est d'ailleurs souvent ce qui crée chez ceux qui ne veulent pas... qui ne veulent pas comprendre un dessin, c'est que parfois ils prétendent qu'un dessin traite de tel sujet, et en fait non, le sujet du dessin c'est autre chose.
Parce que là, sur les réseaux sociaux, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui dit « Ah, vous vous moquez des gens
des
en fin de vie !»
Voilà, des seringues.
C'est lamentable. Il y a des gens en fin de vie et vous, vous riez. Alors ça n'a évidemment rien à voir.
Non, j'allais dire que, oui, tout à fait, Gérard, t'avais trouvé une transition parfaite.
Mais oui,
prochain
oui
sujet.
Voilà.
Mais oui.
Alors quel sujet, c'est Lorraine,
Vas-y, je crois que nous voulions parler du dessin de Coco, publié dans Libération.
Voilà, un dessin qui, justement...
Qui dénonce.
Comme beaucoup de dessins, ce qu'on appelle dans le jargon, hein, n'est-ce pas, Lorraine, un shitstorm, c'est-à-dire un déferlement de merde. C'est-à-dire que... Alors, le dessin, je le décris tel qu'il est. On est dans la bande de Gaza. Et donc, ça met en scène la famine dans la bande de Gaza. C'est ça, le dessin. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui n'a plus rien à manger, d'autre chose que des rats. Il court après des rats pour se nourrir. Donc, un dessin... Je crois que tout le monde a compris, qui dénonce...
La pénurie.
La famine. La famine dans la bande de Gaza. Ensuite, ce qu'on appelle l'humour noir, c'est-à-dire l'humour ajouté à l'humour, ou que d'autres appellent la politesse du désespoir, c'est que ce garçon qui court après un rat se fait taper sur la main par sa mère qui lui dit « Tu ne peux pas maintenant parce que c'est le début du ramadan ». Donc ça se... C'est un peu un humour en plus, c'est un humour qui est un peu grassant, un peu dur, qui est anti-religieux, c'est sûr. Mais voilà, mais le dessin en lui-même, tout le monde l'aura compris, c'est un dessin qui dénonce la famine et la situation des Gazaouis en ce moment.
Tout le monde, sauf...
Sauf, bien évidemment, bon. Sur les réseaux sociaux, les gens qui soit ne comprennent pas le dessin, soit font exprès de ne pas le comprendre, c'est-à-dire des gens qui disent... Alors, je cite des choses que j'ai lues, hein, parce que là, il faut s'appuyer quand même tout ce déferlement, justement, debout. Jean-Loup qui disait la semaine dernière, Twitter, c'est un égout. Ouais, ça, c'est vrai. Et donc, des gens qui disent, vous comparez les Gazaouis à des rats. Sous peut-être qu'à Gazaoui, il y a un rat. Ces gens sont en train de vivre un génocide et vous, vous en riez. Comme oui. Si faire un dessin, c'est forcément se rire de quelque chose. Ben non. Là, c'est un dessin qui dénonce quelque chose. C'est pas un dessin qui...
Alors, ce qui est curieux aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de dessins faits un peu sur ce ton-là oui. Cette semaine, Ramadan, ouais. Famine, sur d'autres sites ou dans d'autres supports, et ça n'a pas fait de ce genre de polémique.
Non.
Donc pourquoi il y a ce déferlement sur ce dessin-là, alors qu'il y en a d'autres qui ont utilisé un peu ce ressort plus ou moins humoristique et un peu cynique.
Il y a peut-être un élément de réponse, c'est parce que c'est Coco, et parce que Coco est aussi une dessinatrice de Charlie, et ouais. c'est un moyen d'attaquer Charlie...
Ouais, c'est un peu l'impression qu'on a.
Pour tous ceux, et celles d'ailleurs, voilà. Qu'ils détestent.
Parce que dans tout ce flot d'insanité qu'on a l'habitude d'avoir sur les réseaux sociaux, oui. À la limite, c'est quasiment un exercice courant. Là, il s'est quand même trouvé quelqu'un qui a surnagé dans toute cette pataugeoire. C'est une
Il y a toujours un machin qui surnage dans une cuvette de toilette.
Qui a cru bon de porter sa voix. À cette voix générale, enfin, c'est pas une voix générale d'ailleurs. Parce
bon, à couche, mais disons, oui, là, on va pas passer deux heures.
C'est Sophia Chikirou. Sophia Chikirou, députée LFI.
Non, c'est Chikirou, merde, je confonds toujours, moi, les deux.
Sophia Chikirou, députée LFI, qui nous dit, c'est son tweet, vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez. Alors là, on passe quand même un cap. Parce que dire à Coco, dire aux gens de Charlie, dire aux gens de Libération et des journalistes en général, vous méritez notre haine, ça veut dire qu'elle justifie quoi ?
C'est leur mettre une cible.
Ça veut dire qu'elle justifie les actes qui pourraient avoir lieu, et ça justifie aussi les actes qui ont eu lieu.
Oui, bien sûr.
Hein ? Ces gens-là méritaient. Donc on est un peu dans le discours, vous l'avez bien cherché. Alors on croyait qu'on était débarrassé de tout ce genre de choses.
Dix ans après. Ah ben non.
Mais là non. Il y a des députés de la République qui arrivent encore à nous remettre là-dessus.
Il y a 10 ans du même parti, Daniel Obono disait, il y a presque 10 ans, disait qu'elle ne pleurerait pas Charlie justement après l'attentat.
Voilà. Et c'était le même parti.
C'est la même ligne. Voilà. Alors, c'est l'affirmation est toujours de plus en plus grande.
Le terme c'est dit, vous le méritez déjà. Il y a une espèce de prétention, mais c'est des gens qui savent ce qu'on mérite. C'est-à-dire que c'est des juges. Moi, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'elle mérite. On peut aussi s'amuser à lister qu'est-ce qu'elle mériterait. Enfin, je veux dire, qui est-elle pour venir nous dire ce qu'on mérite, quoi.
Elle, on peut dire qu'en nous désignant comme des gens méritant la haine, absout déjà ceux qui pourraient s'en prendre à nous.
C'est sûr.
Voilà, on voit de quel côté elle se met. Alors le truc qui est vraiment ignoble, à mon avis, c'est quand le début de la phrase. Vous n'aurez pas notre haine, parce que vous n'aurez pas notre haine, c'est ce que disent les gens qui ont été victimes d'attentats. Puissance un peu terroriste, etc. Dire ça à quelqu'un qui elle-même a été victime du terrorisme, c'est vraiment l'ignominie au carré. On se demande comment on peut...
C'est vrai qu'il y a une inversion des rôles. Elle parle comme si elle-même était victime, alors qu'elle n'a jamais été victime.
À quelqu'un qui l'a été, justement.
À quelqu'un qui l'a été.
Mais sur le même sujet, justement, en plus par rapport à ce qui se passe là dans le conflit israélo-palestinien, on retrouve le même mécanisme où les juifs ou Israël est traité de nazi. C'est exactement les mêmes ressorts.
C'est l'inversion.
C'est
le sommet de la pensée de cette gauche-là, quoi. C'est d'inverser les choses. Voilà.
Mais ce qui est inquiétant aussi, c'est que là, on a l'impression qu'on ne comprend plus du tout le dessin de presse. Enfin, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais on a vraiment l'impression dans le concert, dans ces
chiffres qu'on a eu.
Et là, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas si c'est la mauvaise foi, si elle fait semblant de ne pas comprendre, et où elle sous-entend qu'il faudrait. Il y a ceux qui considèrent qu'il faut. On peut pas rire de ça, et donc voilà, il y aurait même plus de dessin possible sur Gaza. Il y a ceux qui manifestement ne comprennent vraiment pas que l'idée de Coco est de dénoncer la situation, dénoncer donc ce que fait aujourd'hui Israël à Gaza, c'est-à-dire cette destruction massive, ces crimes de guerre, le fait que les gamins sont en train de mourir, c'est ça qu'elle dénonce, Coco. Et ça, manifestement, plein de gens sont incapables de le lire dans ce dessin.
Et notamment sur les réseaux, parce que les réseaux, c'est différent du journal, parce que quand c'est paru dans Libération, c'est contextualiser. On sait que Libération est un journal plutôt de gauche, progressif, etc., qui s'émeut aussi de ce qui se passe à Gaza. Ils ont fait des unes là-dessus. Et quand ça se retrouve sur Twitter, c'est un dessin qui est vu comme ça par des gens qui n'ont aucune culture.
Sur Twitter, on sait que c'est quand même dans l'IB, donc il y a quand même ce contexte-là. Donc c'est vraiment faire abstraction de ça.
Je ne pense pas qu'ils regardent d'accroche que c'est l'IB. C'est un dessin qui se trimballe sur Twitter. Les gens regardent ça, ils le regardent deux secondes. Ils veulent comprendre ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ont déjà dans la tête, et puis ils mettent leurs insultes, des menaces de mort, etc. C'est pavlovien, enfin, c'est un truc qu'on ne peut même pas leur vouloir. C'est pour ça qu'il faut les distinguer des gens comme la députée Chiquiou.
Chiquiou, c'est une communicante, et c'est très bien ce qu'elle dit. Absolument. Et pour revenir aussi à ça, quand on veut défendre une cause, comme on peut défendre effectivement la situation des Palestiniens, quand on voit ce qui s'est passé à Sciences Po cette semaine, où il y a une manif pour soutenir Gaza, bon, à la limite, pourquoi pas, mais où, d'après ce qu'on nous a expliqué, certains étudiants répertoriés comme juifs n'ont pas été, repoussés. On attend le commentaire de Chiquiou là-dessus. Il y a aussi des choses qui sont scandaleuses et qui passent à la trappe.
Elle va nous dire que c'est pas des juifs, c'est des sionistes.
Voilà, c'est ça.
Les termes qui sont en usage.
Ça fait plus 50 ans qu'on entend ce vieux truc. Que pour ne pas dire juif, on dit sioniste. C'est censé donner une honorabilité à quelque chose dont on sait très bien ce que c'est. Et voilà quoi. Bon, donc,
Madame Chiquiou. Vous êtes encore illustré par votre ignominie, comme d'habitude.
Ah, mais vous êtes en colère ce matin.
J'espère que les gens, maintenant qu'ils savent ce qu'elle a écrit, pèsent un peu ce que ça peut signifier, et ce que ça peut signifier pour nous, ce que ça peut signifier pour des journalistes, ce que ça peut signifier dans des propos comme ça en France.
Mais ils n'en ont rien à foutre de tout ce qui s'est passé, en fait.
J'espère que certains sauront quand même se démarquer de tout ça. J'espère qu'il y aura quand même... Et d'ailleurs, je le vois, il y a quand même un sursaut. Après, bien sûr, il faut regarder encore une fois sur les réseaux, etc. Il y a quand même un front de soutien à Coco qui se met en place.
Et oui,
y a quand
ça même arrive des gens, souvent après.
Il y a des gens qui...
Enfin bon.
Mais de toute façon, Madame Chiquiou. Ah oui, on n'avait pas compris ce qu'elle voulait dire. Regardez ses explications. En fait, elle voulait dénoncer ce qui se passait. Oui. Donc j'ai vu aussi des gens, c'est assez incroyable de voir ça. Des gens dire ah, mais on n'avait vraiment pas compris son dessin. Donc je pense qu'il y a aussi tout un tas de gens.
J'ai souvent dit.
Et c'est très inquiétant qu'ils sont capables de lire ce dessin.
Oui, mais les gens qui sont au final le plus dangereux, c'est ceux qui font semblant de ne pas comprendre.
Bien sûr,
ceux qui ne comprennent pas,
ça, c'est comme tout le monde.
Ça s'apprend, mais
Chiquiou, c'est ce que c'est que la caricature. Elle est fille. Donc voilà.
Je crois que son compagnon est un ancien dessinateur de presse.
Il s'est essayé.
Donc, Madame Chiquiou, vous serez.
Quoi?
Vous êtes comptable de ce que vous avez dit. Vous êtes comptable d'avoir dit.
Alors, je vais mettre une coupe sur le dos parce que sinon,
vous êtes comptable de dire que certains journalistes méritent la haine, méritent ce qui leur arrivait et peut-être mériteront ce qui va leur arriver. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous êtes comptable de ça. Et j'espère que certains, dans votre parti notamment, sauront se démarquer de vous. Espérons-le.
Tu parles,
ouais. Moliris. Moi, je suis un homme d'espoir.
Oui. Bon, ensuite.
Comme d'ailleurs le dit ma très belle colonne sur la bande de Gaza.
Il fait de l'auto-publicité maintenant.
Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre un dessin de presse, n'hésitez pas à vous rendre sur Dessiner, Créer, Liberté, le site qui explique très bien comment comprendre.
Et puis, si vous aimez les dessins drôles et cyniques et d'humour noir sur Gaza, vous pouvez aussi lire leur série de Charlie Hebdo sur le conflit qui est actuellement dans les kiosques. Là, il y a aussi beaucoup de dessins qui risquent de choquer Madame Chiquiou.
Voilà, on va lui envoyer peut-être pour qu'elle essaye de s'émanciper. Enfin, je n'ai envie de rien lui envoyer du reste.
Calme-toi. Depuis ce matin, t'es hors de toi.
Je suis hors de moi depuis hier. Je le serai encore peut-être toute la semaine.
Bon, ensuite, changeons. Alors, ensuite, un sujet plus calme.
Alors, l'esprit maintenant de ces nouvelles causeries, c'est un petit débat, on rentre dans un sujet qu'on a développé dans le journal. Et là, le sujet, c'est les 20 ans du voile, enfin de l'interdiction du voile.
L'interdiction des signes ostensibles religieux à l'école.
Voilà. Ah bah attention.
Toi, l'homme ça dans la loi. Qui est un petit peu concerné par toutes ces choses de la laïcité, tu as commencé par faire une interview et pour placer un petit peu les choses de manière historique. Donc ça commence quand, en fait, ce truc-là?
Oui, tout commence en 1989, quand trois adolescentes ont voulu porter le voile à Creil, ont été exclues de leur établissement. Ensuite, là-dessus, Jospin, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, avait demandé son avis au Conseil d'État, qui dit qu'il n'y a pas de problème et que ces jeunes femmes peuvent porter le voile. Et À l'issue de ça, pendant plusieurs années, il y a des décrets qui sont mis en place, mais ça devient de plus en plus compliqué. Il y a une multiplication du port du voile dans les établissements scolaires, et ça devient compliqué au tel point que les chefs d'établissement, les enseignants, ne savent plus trop comment gérer ça. Donc ils vont se tourner vers les parlementaires, et là, il y a une commission déjà d'enquête parlementaire qui se met en place par Jean-Louis Debré, et là, Jacques Chirac veut sa propre commission et crée ce qu'on appelle, ce qui est donc la très connue commission Stasi, présidée par Bernard Stasi. Et dans cette commission,
pas la police allemande. Hein.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut préciser que c'est du nom de Bernard Stasi. Bernard. Et donc il y a plusieurs, elle est composée de 20 membres avec des parlementaires, des juristes, des représentants de l'éducation nationale, des chefs d'entreprise, des universitaires, et dont Patrick Veil, qu'on a souhaité interviewer pour qu'il revienne sur ce qui s'est passé au sein de cette commission. Et j'ai pu aussi me replonger à cette occasion dans le rapport de cette commission qui est vraiment passionnant. Et donc Patrick Veil nous rappelle dans une interview l'idée majeure, pourquoi on en est arrivé à cette loi, c'est que dans cette commission, ils ont auditionné notamment un certain nombre, ils ont fait une centaine d'auditions, donc c'est considérable, et notamment des adolescentes qui, à l'époque, disaient « protégez-nous des pressions religieuses ». On nous impose de porter ce voile. Oui. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'à l'échelle de l'histoire, c'est quand même très récent, c'était il y a 20 ans.
C'était une loi contre le voile.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une incompréhension. Il y a une inversion totale aujourd'hui. Beaucoup d'adolescentes, de jeunes femmes qui disent c'est une loi liberticide, on nous interdit de porter le voile, c'est stigmatisant, c'est raciste, etc. Or, à l'époque, c'était des jeunes femmes qui disaient protégez-nous parce qu'on est sous la pression de religieux. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de faire de l'histoire,
parce qu'en fait,
de rappeler
d'où ça
vient.
C'était trois jeunes filles qui portaient le voile, après, c'était quasiment un petit peu.
Oui, c'était pendant un temps marginal, mais après, c'est vrai que ça s'est propagé. Aussi, Patrick Veil rappelle qu'à l'époque, on s'est rendu compte après qu'il y avait eu effectivement une offensive des frères musulmans qui allaient à la rencontre des jeunes femmes pour les inciter à porter ce voile.
Une fois que l'État a dit, écoutez, c'est marginal, c'est pas très intéressant, finalement, vous pouvez aller avec votre voile, les religieux s'en sont emparés en disant, tu vois que tu peux aller à l'école avec le voile, pourquoi tu ne le mets pas?
Et donc, celle qui ne le mettait pas passait pour de mauvaises musulmanes. Donc, c'est vrai que cette interdiction des signes religieux sensibles à l'école permet aussi d'avoir une forme de respiration laïque qui permet à ces adolescentes de ne pas avoir cette pression au sein de l'établissement. L'idée aussi, plus générale, c'est d'être pleinement élève et uniquement élève et de se dépouiller, entre guillemets, de ces influences religieuses et d'une apparence religieuse, en quelque sorte. Voilà. Ouais, et donc, on rappelle, c'est l'origine de cette loi. Alors, Patrick Veil rappelle aussi, je trouve ça intéressant parce que donc, la commission a duré pendant 6 mois, a entendu beaucoup de personnes et il y avait plusieurs propositions, pas uniquement la loi sur le voile, c'est la mesure phare qui a été retenue, mais ils avaient proposé également d'ajouter, parce qu'à l'époque, Jean-Pierre Raffarin voulait supprimer le lundi de Pentecôte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand débat national.
Qui ne se souvient pas de Raffarin
à ce moment-là, la commission à l'unanimité avait proposé d'octroyer un nouveau jour férié pour d'autres fêtes religieuses, parce qu'il est vrai que la plupart des fêtes religieuses aujourd'hui dans le calendrier sont issues du calendrier chrétien ils ont constaté, les profs constatent que pour certaines fêtes comme l'Aïd, il y a très peu d'élèves qui sont scolaires, qui viennent ce jour-là et donc c'était un petit peu acté cette situation-là et proposé un jour férié au choix, et c'était aussi valable pour des salariés de dire, mais sans forcément, ça aurait pu être aussi des athées, enfin, c'était un jour férié supplémentaire pour tout le monde. Il ne s'agissait pas de dire moi je suis de telle religion et donc je prends ce jour-là. Ça pouvait être un athée qui dit moi j'ai envie de partir en week-end ce jour-là, l'idée de la commission c'était celle-là, c'était surtout d'avoir une neutralité et que personne ne doit s'enregistrer entre guillemets comme étant de telle ou telle religion.
C'est peut-être là qu'il y a un petit débat chez nous,
parce que moi je suis plutôt pour ça, parce que je trouvais, et l'esprit de cette commission c'était d'apporter aussi une sorte d'équilibre et de dire voilà, et puis de constater que la plupart des établissements, il n'y a aucun élève, c'est un peu absurde. De fait, aujourd'hui, les profs ne font pas cours parfois dans certains établissements à cause de ça.
Mais c'est quand même invraisemblable.
Peut-être juste pour finir, c'est que ça, c'est pas forcément, enfin, les personnes qui sont absentes ce jour-là ou qui fêtent ça, c'est un peu comme j'ai envie de dire, nous on fête Noël, on est agnostique ou athée, enfin je pense pas qu'il y ait, voilà, on a tous un peu un jour à Noël hein, à la rédac, parce qu'on va voir nos familles, on peut voir avoir un jour familial, disons
non,
un
j'ai
peu
plus de
habituel, sans forcément fêter la fête dont il est question. Et je pense que c'est la même chose pour l'Aïd, où c'est juste un peu une retrouvaille en, des retrouvailles
alors,
en famille, sans être
ce
forcément
genre de chose. Est-ce que l'école doit être le lieu? Alors, c'est peut-être la question. Ah, Gérard, est-ce que toi tu es d'accord?
Surtout, est-ce que cette loi, enfin, est-ce que cette cette loi était destinée à ça? Non, en fait, là, je pense que
la commission, c'est-à-dire, a proposé.
On était confronté à un problème religieux et comme tu l'as souligné, à des pressions religieuses et il s'agissait de répondre à des pressions religieuses. Il n'y avait pas de pression religieuse pour avoir un jour férié ou, mais on a voulu, à mon avis, il y a quelque chose
de compensation.
Yann dirait de l'impensé.
Ils le disent comme ça, ils le disent que c'est une forme d'équilibre.
Que c'est,
c'est pas une forme. Tous les jours fériés sont majorité catholique, on veut.
Je parle pas d'équilibre. Je donne une sorte de gage. Aux religieux en anticipant un tollé qui a eu un peu lieu d'ailleurs, mais voilà, donc c'était une espèce de donnant. Moi, je vois ça plutôt comme ça, en fait.
Un marchandage.
Parce qu'il n'y avait pas de demande. Il y avait une demande sur le port du voile, il y avait une pression sur le port du voile, il y avait des campagnes, parce que ça, entre le moment où il y a eu cette affaire du voile de Creil et la loi, il s'est quand même passé 15 ans. En 15 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu énormément de choses qui se sont dites, il y a eu des débats autour de cette question. Et il n'était pas du tout question de jours fériés religieux, voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'au sein de cette commission, je sais pas, j'imagine peut-être, hein, mais au sein de cette commission, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner pour les calmer, quoi. On va leur donner un petit machin comme ça. Tu vois, moi, je vois ça plus comme ça.
Il y a aussi des profs qui constatent qu'il n'y a plus d'élèves en cours ces jours-là.
Est-ce que l'école
ça c'est pas normal?
Est-ce qu'un constat de devenir
ça c'est pas normal?
Mais on poserait aussi une journée à Noël si on l'avait pas.
Voilà. C'est
si on veut lutter contre la pression des religieux sur les élèves à travers le voile et que dans le même temps on accepte une fête religieuse soit intégrée pleinement dans le programme scolaire, enfin c'est contradictoire.
Oui, il y a une schizophrénie là-dedans.
Voilà, ça va pas. Maintenant, au niveau du sens, c'est ce que ça signifie. Et puis après, les fêtes religieuses, quand on parle de Noël, pourquoi est-ce qu'il faut que. C'est plutôt l'inverse. D'abord, il y a trop de fêtes religieuses de jours fériés à cause des fêtes de jours religieuses. Puis pourquoi Noël devrait obligatoirement être férié? Après tout, chaque fois qu'on a Noël tous les ans, ça tombe en pleine semaine, ça fout la merde dans l'organisation du boulot. Oui. C'est aux gens de fêter de Noël le week-end chez eux. On n'est pas à deux jours près, on n'en a rien à foutre que ce soit le 24 ou le 26 ou le 27. Normalement, ça ne devrait pas être un jour férié Noël.
Oui, mais tu veux casser le moral des enfants, des petits-enfants.
Non, mais ils fêteront Noël le dimanche. Le jour du Seigneur. Il y a déjà un jour du Seigneur.
C'est vrai qu'il y a déjà un jour du Seigneur. Toutes les semaines en plus.
Tu fais Noël le dimanche, voilà.
Ça fait 52 jours du Seigneur.
Ouais, ça fait 52. Ils ont 52
Noël.
Je crois
52...
que quand Noël tombe dimanche, on a droit à une récup.
Hein?
Quand Noël tombe un dimanche, on a droit à une récup. Non.
Alors toi, le syndicaliste.
Bon, après avoir entendu la voix du patronage.
du patronage.
Les deux.
Non, mais non.
De toute façon, cette idée a été rejetée. Et
oui, mais elle n'a pas été conservée dans la loi qui découle de la commission Stasi. Oui,
c'est... Et on est resté.
Et après, l'idée principale de l'interview de la double page, c'est rappeler d'où vient loi. Et aussi, après, c'est aussi se poser la question aujourd'hui de comment on peut faire pour que ce soit compris, cette loi. Parce qu'aujourd'hui, elle est totalement incomprise.
Pour aider les filles à résister à la pression.
C'est même leur demande. Ça venait d'elles. Parce que souvent, maintenant, on dit parler aux premières concernées. Les premières concernées, c'était elle demandait.
Chronologiquement, c'est pas les concernées, mais maintenant, la pression religieuse, elle est dans tous les domaines. Malheureusement, c'est pas qu'à l'école.
Elle n'est pas qu'à l'école, elle n'est pas que sur le voile, elle s'est déportée aussi sur le contenu des programmes, sur le déroulé des cours, sur le fait que. Qu'on ne peut même plus montrer un tableau avec des nus sans que ça déclenche un tollé. Enfin,
C'est ça le problème, c'est que derrière ça, il y a tout un train de d'autres revendications.
Voilà.
Et tu sais plus comment canaliser tout ça.
Voilà.
Et y compris les filles qui en dehors, parce que c'est bon, voilà, il y a toujours cet endroit de l'école qui est préservé, mais c'est vrai que beaucoup aussi le remettent dès qu'elles sortent de cours. Donc on peut pas juste se satisfaire de ça. Et j'ai envie de dire, faut aussi trouver les moyens de, enfin, pouvoir mettre à distance les injonctions religieuses. Quelle qu'elle soit,
d'une façon générale, mais déjà s'il y a cet espace de l'école et s'il y a cet espace pédagogique, moi je pense qu'il y a un élément qu'on n'a pas souligné, et puis qui a peut-être pas été, ça pouvait être ce qu'on, disons, appelons ça un élément de langage ou un outil pédagogique à fournir aux professeurs et aux enseignants à l'époque, c'est de dire que c'est cette loi, en fait, elle dit tout simplement aux jeunes filles, vous avez le droit de ne pas porter le voile.
Oui, c'est ce que
c'est
ça
d'abord
dit,
ça qu'elle, c'est d'abord ça qu'elle leur dit. C'est ça le fond aussi de cette loi. Et ça a évidemment pas été fait. Ça a été fait par personne, pas plus par des intellectuels que.
C'est vrai, nous dit Lorraine.
Merci Lorraine.
Un plaisir.
Merci. Mais nous avons une double page avec plusieurs entrées, voilà, comme on dit dans le jargon journalistique, aussi, l'entretien de Patrick Veil, voilà. Et deux autres articles.
Oui, deux autres articles.
De
Lorraine.
Oui,
c'est intéressant parce que
de quoi t'as parlé.
Tu nous as fait un petit tour de quelques régions du monde.
Oui.
Pour savoir comment est pratiquée la laïcité avec plus ou moins d'élasticité et même de drôlerie parfois, je pense aux Belges.
Oui, bah alors les Belges, c'est quelque chose. on commence par le Québec qui vient d'adopter une loi, Gérard, dis-moi si je me trompe, c'est la loi 21.
Oui, c'est la loi 21.
La loi 21, ouais. Donc, alors pour l'anecdote, en plus, j'ai appelé la personne qui a déposé la loi à l'Assemblée nationale en pensant que c'était un député. Il s'avère que c'était le ministre de la Justice du Québec. C'était un peu gênant parce que je m'en suis rendu compte en raccrochant. Je me suis dit, merde, j'ai pas été. Bref, voilà pour l'anecdote. Et c'était quand même un peu gênant. Un accent québécois.
Bonjour les clichés.
Et non, donc en fait, le Québec, ils ont une histoire assez intéressante par rapport au Canada, parce qu'au Canada, c'est très progressiste, c'est une mentalité assez anglo-saxonne, notamment sur la laïcité. Donc le fait que le Québec.
C'est pas progressiste, c'est cubéni.
C'est faux cul.
Voilà.
Ok.
Laissons parler Lorraine.
Ambiance.
Voilà.
Non, et du coup, bah, donc le Canada voit le Québec comme une nation un peu islamophobe, parce que le Québec a la laïcité chevillée au corps. Bon, après, leur loi, elle est assez gentillette. Hein. C'est vraiment, on n'accepte pas les signes ostentatoires religieux dans quelques professions, les professeurs, les policiers, les juges, et peut-être un ou deux autres. Mais bon, c'est déjà un premier pas. Alors en Belgique, c'est un foutoir absolu. Surtout à l'école, parce que l'État, donc en fait, c'est pas de la laïcité, c'est de la neutralité, mais la neutralité, ça veut pas dire grand chose. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on refuse, on sait pas trop, du coup, bah, les gens s'y perdent aussi.
Et on doit quand même choisir.
Et on doit quand même choisir. Quand on est à l'école publique, on doit choisir un culte, donc il y en a 7. Donc,
bah.
C'est une
blague.
Si, tu dois trouver ton culte parmi 7.
C'est pas une histoire belge.
Et c'est l'État qui les finance, et donc les laïcs se sont regroupés pour faire financer aussi leur cours de culte qui s'appelle la morale laïque, ce que dénonce évidemment, bah, par exemple, Jamila Benhabib, que j'ai interviewé, qui a un centre qui travaille, qui est une militante laïque,
oui, qui est une militante laïque.
Qui dit que c'est complètement absurde et que la laïcité, c'est pas un culte et que ça doit être au-dessus de l'État, donc c'est complètement con.
Ça, c'est quand même drôle que la laïcité, pour se faire entendre, est obligée de se donner le statut de culte.
Oui,
ça,
c'est quand même
magnifique et
c'est un peu
lunaire.
Non, mais en plus, c'est de ce qu'elle me racontait à l'école, c'est quand même assez grave, parce que du coup, toute proportion gardée, mais c'est-à-dire que les enfants restent entre eux, en fait, donc les protestants avec les protestants, les musulmans avec les musulmans, il n'y a pas beaucoup
de groupes de niveau, c'est pas ça.
Tu dis belge en diable, mais c'est pas que belge en diable, c'est une idée qui circule aussi en France, c'est un argument qui circule aussi en France. À chaque fois, très souvent, quand la laïcité est attaquée, t'as des gens, et non des moindres, puisque je crois que notre cher président Macron a employé ce terme, qui parle de religion laïque, de religion de la laïcité. Donc, c'est pas que belge. Hein, voilà.
C'est Macron aussi.
Macron est souvent un peu belge dans ses manières d'intervenir, non ?
Ouais, je dirais pas ça.
On dira pas ça.
Tout ça pour dire qu'on finit sur l'Angleterre.
L'Angleterre, c'est. Gérard, toi qui es l'anglais de service.
L'Angleterre, c'est la laïcité, ça n'existe même pas. Comme dit Gérard, c'est même pas un mot qui est traduisible en anglais déjà de base. Donc c'est un foutoir. Là, c'est open bar. À l'école, la dernière fois, il y a eu des menaces de mort sur une école qui a essayé d'interdire le voile aux fillettes de moins de 8 ans. Dans le règlement intérieur, et c'est parti en cacahuète, les parents ont protesté, et donc je crois que l'école, il me semble que l'école a fait machine arrière.
Pardon. Elle a fait la bombe, etc.
Ouais, et c'est parti vraiment en cacahuète. Donc, mais du coup, en Angleterre, la question de la laïcité ne se pose même pas. Il y a bien des militants, mais voilà. Ça prend pas trop, quoi.
Bon, voilà. Alors après, il n'est pas là, il a essayé de venir réparer quelque chose et ça s'est mal passé. Mais Jean-Loup, justement, lui aussi, qui intervient dans cette double page, parlait de ce dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que certains religieux qui sont restés un petit peu à la porte de l'école essaient de rentrer par d'autres moyens dans des institutions telles que la magistrature, telles que l'hôpital.
Voilà, l'hôpital, ça fait un moment que ça dure, hein, que l'hôpital est soumis lui aussi à des pressions religieuses, avec des maris qui refusent que leur femme soit soignée par un homme, soit examinée par un homme, enfin bon, etc.
Des médecins juifs qui ne veulent pas travailler le samedi, voilà. etc.
Effectivement, Jean-Loup fait le tour de ça.
Beaucoup dans le domaine du sport aussi.
Le sport est constamment confronté à ça. Local le plus célèbre, c'est les Djabeuses. Hein.
Ouais, les Djabeuses.
Mais on va y avoir droit, évidemment, avec les JO. Où le comité international olympique, dans sa grande logique, alors que dans la charte olympique, il est absolument interdit de manifester toute opinion politique, religieuse ou quelle qu'elle soit sur dans le cadre olympique. Là, avec le voile, ils sont couchés, mais magnifiquement. Peut-être est-ce dû au fait qu'il y a, je crois, un prince saoudien qui fait partie du comité olympique. Ouais, je dis ça, je dis rien. Hein.
Tu dis ça, tu dis rien.
Voilà, mais bon,
c'est peut-être
le voile, c'est peut-être juste pour la pudeur aussi. Hein.
C'est vrai que pour la pudeur. Et puis ça aide à nager, je sais pas.
De toute façon, le sport étant le réceptacle de tout ce qui est un petit peu étrange dans la société, il est bien normal que les religieux y trouvent leur place. N'est-ce pas, Biche ?
C'est pas très compliqué, je pense.
C'est pas.
Toi qui vois un culte au Paris Saint-Germain. Par
c'est pas. C'est pas. Non, c'est pas ce qu'il y a d'étrange. C'est simplement parce que le sport est, j'allais dire malheureusement, mais non, tant pis, je vais pas le dire, est très populaire. Donc c'est une porte d'entrée.
Oui.
C'est une porte d'entrée dans l'opinion publique. C'est une porte d'entrée pour imposer des règles religieuses à une société. On voit bien, c'est pas nouveau. Au début du 19e siècle, l'Église catholique était vent debout quand elle voyait une femme à bicyclette. Donc voilà.
La femme à bicyclette, c'est vrai que c'est un petit peu. Là, tu des choses un petit peu choquantes parce qu'il y a des médecins qui ont bien dit qu'il se passait des choses.
Oui,
c'est bien aussi de savoir prémunir la femme de ça.
Comme les femmes qui font du cheval, d'après Gérard Depardieu.
Voilà. Enfin,
le professeur Gérard Depardieu.
Le professeur Depardieu, d'ailleurs.
Qui s'est trompé de siècle.
Voilà. Qui s'est trompé de beaucoup de choses, hein, je pense. Mais bon.
Attention au sport et à la religion. C'est un petit peu là-dessus qu'on va se quitter.
Voilà.
Hein ? Au revoir à tous, et puis nous réitérons bien sûr notre soutien à Coco dans ces débats avec tout ce que la société française compte de lamentable et d'abouti. Alors,
tout à fait,
nous dit alors. Eh bien, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Salut.